qu'on passe maintenant à la discussion avec la salle.
Bonjour, Claire Huot, Kurt Salmon, dans le cabinet de conseil. Je travaille sur le secteur de la santé. J'ai deux remarques et une question. En fait, on voit que l'assurance maladie aujourd'hui développe des programmes de case management qui sont très proches de ce que vous évoquez, hein, donc de personnalisation du soin rendu à un patient. Donc là, on voit qu'on y va sur des choses moins graves, enfin en tout cas plus long terme. Ma remarque, elle est que j'ai trouvé que tous ces outils étaient très personnels, très tournés vers l'individu, et que l'entreprise, c'est plutôt un environnement collectif. Donc voilà, c'était juste un petit peu ce paradoxe où finalement, on va doter l'employé d'outils pour se responsabiliser, mieux appréhender le monde du travail, à part qu'il est dans un environnement multi-acteur. Ça me donne l'impression que l'entreprise est déresponsabilisée.
Alors, cette comparaison avec les outils de case management que je connais un peu, en fait, le case management, pour ce que j'en ai vu, développé par les grands éditeurs, c'est un peu la déclinaison de l'ERP, donc dans le domaine de l'hôpital, c'est-à-dire que c'est effectivement donc de SAP et ces grosses machines qui permettent de gérer la logistique dans les entreprises. Et c'est en gros une sorte de gestion de dossier extrêmement élaborée sur des pathologies. Là, on est vraiment en amont sur la question du bien-être. Et c'est vrai qu'il y a une double responsabilisation, mais qui est celle de l'employeur dans la partie incitative. Et ce qu'on voit dans les programmes de bien-être, c'est qu'il y a un effet d'entraînement qui est énorme. Je vous rappelle le chiffre que citait Christophe tout à l'heure. C'est-à-dire les programmes classiques, donc c'est à près 7% d'adhésion, et ces programmes dans lesquels on a une émulation sociale grâce au numérique, c'est la moitié des salariés. Donc cette problématique individuelle, l'entreprise et ces outils-là permettent d'en faire une problématique collective pour le bien de tous, en fait. Et cette capacité d'entraînement qui est caractéristique de l'espèce humaine, sans doute, sur les bons côtés comme sur les mauvais. Et là, on réussit à créer une dynamique positive.
Sophie Girardeau, journaliste. Ma question est en lien avec le rapport aux écrans. Il me semble qu'il y a pas mal d'études qui dénoncent les effets plus ou moins nocifs de trop de rapports à l'écran. Il me semble que ce genre d'outil ne va pas minimiser ce type de rapport. Donc c'est un petit peu paradoxal. Est-ce qu'on n'est pas toujours un peu plus scotché sur son écran, quel qu'il soit? Est-ce que ça contribue vraiment au bien-être? C'est ma question.
Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas être trop long. Alors, on a vu effectivement se développer aux États-Unis, et c'est devenu une mode en France, un certain nombre de gens qui disent « Oh là là, les écrans, c'est tout mauvais, on y trouve du sexe, de la violence, c'est une véritable drogue, etc. etc. » C'est un mouvement, c'est une mode comme une autre. C'est une mode, on peut la dater, c'est un agglomérat de plein de choses. C'est absolument dingue, y compris d'intérêt de gens qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, entre ceux qui nous proposent un Shabbat technologique, ceux qui nous proposent... Non, mais il y a vraiment au moins 5 courants très particuliers. Un certain mouvement de psy favorable à la méditation, qui sont les premiers généralement à avoir leur blog. Quand ils vous écrivent ça sur des articles, y compris américains, à la fin, c'est « Vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur mon site Facebook, etc. etc. » Donc il y a une vraie problématique derrière ça. Il y a un rapport qui certes a été contesté, mais assez mal. Il y a un rapport en France donc, qui a été émis par l'Académie des sciences, bon, qui s'est fait fustiger par 50 spécialistes de la psychiatrie, mais qui pratiquement de la psychologie, mais dont aucun n'avait vraiment écrit sérieusement sur la question depuis des années, alors qu'il y a un certain nombre de psys qui sont reconnus sur la question et qui n'ont pas du tout cet avis-là. De notre point de vue, la question, on est parfaitement en phase avec le rapport de l'Académie des sciences, la question, et il y a une étude récente américaine qui le montre, n'est absolument pas le temps passé devant les écrans. En plus, vraiment, c'est une très très mauvaise question. Moi, j'ai documenté ces questions-là il y a 10 ans. Il y a 10 ans, personne n'avait envie de parler de ces questions-là, de la surutilisation. Ce n'est absolument pas une drogue. En l'occurrence, vraiment, il y a beaucoup de psys qui contestent cette idée-là. Donc, ça ne rentre pas dans les catégories drogue. Donc, qu'est-ce que c'est d'autre ? Si ce n'est un certain nombre de gens qui ont des mésusages. Alors ça, oui, ça c'est clair. Donc ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de mauvaise utilisation. Alors là, on peut ouvrir vraiment le débat. Donc toute la question est là. Est-ce que c'est une meilleure utilisation ou une plus mauvaise utilisation ? On peut en discuter. Il y a des plâtres à essuyer, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a effectivement des gens, ça s'appelle le quantified self, qui passent leur journée, entre guillemets, à numériser leur vie. Ça a plein d'effets positifs, on peut dire plein de choses, mais je me souviens de plein d'articles qui disaient « passer son temps à se peser tous les matins, c'est extrêmement nocif, ça doit dérégler le mental, etc. » Il y a plusieurs études qui montrent que ça n'a strictement aucun effet. Donc on craignait des choses un peu étranges. Bon, je vais passer la parole à Jean-Baptiste.
Oui, parce que vous avez cité les études sur les écrans, mais il faut savoir de quels écrans on parle. En fait, la difficulté, c'est que la majeure partie des études scientifiques sur les écrans et les effets néfastes sont des études sur la télévision, et pour lesquelles on a eu effectivement un recul de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si vous regardez l'ouvrage « Télélobotomie », effectivement, ça a été très bien documenté, l'impact sur la maladie d'Alzheimer, les effets effectivement sur l'obésité, sur les pratiques sexuelles à risque, etc. En revanche, sur la question des écrans, par exemple, donc il n'y a pas tant d'études que ça. J'étais donc en début d'année au Congrès national de psychiatrie de l'encéphale. Et alors, on nous a montré qu'une des études de référence, donc une étude allemande sur le sujet, a fait un travail sur à peu près 1 millier de jeunes qui étaient identifiés comme cyberdépendants. Donc avec les jeux en ligne, World of Warcraft, Facebook, réseaux sociaux, etc. Ils ont diagnostiqué l'ensemble des symptômes. Et 2 ans après, ils ont repris les jeunes. Et en fait, il se trouvait qu'il y avait la moitié de l'échantillon sur lequel il n'y avait plus de diagnostic d'addiction. C'est-à-dire qu'on est en train de nous parler d'addiction au même type que l'alcool, la cocaïne, le jeu, etc. Mais c'est la seule addiction dans laquelle, effectivement, la plupart des gens guérissent spontanément et dans les délais assez rapides. Donc en fait, on est en train de comparer sur les écrans, de parler de choses qui sont extrêmement différentes, d'utiliser un vocable qui a été utilisé par les médecins, mais pour d'autres situations en termes d'addiction qui ne correspondent pas aux phénomènes qu'on observe, ou en tout cas dans lesquels les situations sont plus compliquées. En fait, tout le monde cite des nombreuses études scientifiques sur les écrans, mais en fait, en général, ce ne sont pas les bonnes.
Donc, ce que tu dis, c'est que c'est une addiction dont on guérit plus facilement que l'addiction à l'alcool ou à la drogue, c'est ça ?
Mais est-ce une addiction, alors ?
Je précise, si addiction n'était pas le bon mot, c'est le rapport qu'on a systématique pour gérer une question qui ne relève pas forcément uniquement de ce genre de choses. On passe par un médium qui est quand même un peu particulier. Je pense que l'observation de gens qui ont un rapport assez ombilical à certains outils, elle saute aux yeux. On s'en rend compte quand même aujourd'hui.
Mais si on parle de mes usages, on est totalement d'accord avec vous. Moi, je ne dors pas avec mon téléphone mobile à côté de moi.
Donc, parlons de mes usages.
Et j'ai encore moins de relations intimes en regardant mes SMS. Il y a des gens comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, on n'est pas forcément devant une addiction. On est devant un mes usages absolu. Attention aux mots qui sont derrière, parce que là, si on veut psychiatriser toute la société, ça peut être très juteux pour des psys, donc ça, on peut comprendre des choses.
Non, mais il y a des phénomènes de fatigue aussi, tout simplement,
oui, avec les écrans. Hein. Non, mais tout à fait. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses, si vous voulez, à dire là-dessus. Il y a énormément de gens qui ont travaillé depuis très longtemps, et ce mouvement-là, qui est une mode, c'est des gens qui n'ont rien écrit sur la question et qui se réveillent. C'est quand même un peu étonnant. Des gens comme Tisseron, on ne les écoute pas, alors qu'ils disent le contraire. Je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Les écrans, ce n'est pas le numérique, pas que le numérique. On a parlé de podcast tout à l'heure pour s'entraîner. Donc, vous êtes uniquement au son. Alors, moi, je voudrais quand même bien savoir comment on apprend la méditation. Tous les gens qui ont appris à méditer ont eu plus ou moins un maître. Alors, maintenant, c'est la mode, ce n'est pas d'apprendre avec un maître tibétain, c'est d'apprendre avec un psy. Bon, comme ça. Et à ce moment-là, vous avez des enseignements et vous avez quelqu'un qui vous coach et qui vous parle, y compris avec des ambiances sonores, etc. Donc, ils faisaient ça sur des cassettes avant, maintenant c'est sur des podcasts. Vraiment, la problématique de l'écran, c'est soit c'est un écran, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus large que ça, et si vous dites, ce que je peux entendre aussi, l'audio, c'est la même chose, on n'a pas les mêmes phénomènes de dépendance. Enfin, c'est...
Je parle des ombiliques, voilà. On est sur des outils qui raccordent la personne de façon très proche à un outil, c'est tout.
Je comprends que ce qui vous perturbe là-dedans, c'est le côté non naturel.
Ce qui me perturbe, c'est que sur un sujet qui me semble relever pas uniquement des technologies, il y a un énorme focus sur ces technologies. J'aurais aimé vous entendre, M. Henrion, sur des problématiques de risques psychosociaux, enfin, votre réaction par rapport à cet usage, ce type d'usage pour régler certaines problématiques. Ce qui a été relevé de façon très judicieuse tout à l'heure, c'était qu'on demande à la personne de se responsabiliser. on ne va pas toucher ce qui fait mal à l'entreprise, genre repenser à son organisation et tout ça, et vous pensez que c'est peut-être une façon d'y arriver. Donc très bien, peut-être, mais...
Moi, je constate que j'ai lu depuis des décennies à peu près ce qu'il fallait faire, changer l'organisation, la culture managériale, etc., et on en est à peu près au même point. Donc probablement, ce diagnostic-là est posé, archiposé. Bon, effectivement, on ouvre une piste nouvelle. Elle n'est peut-être pas miraculeuse, mais elle est effectivement différente. Ça, c'est vrai.
Juste peut-être pour compléter, puisque vous me sollicitez en deux mots. Oui, non, je n'ai pas abordé ce point-là. Je n'avais pas très envie de rentrer dans la question de savoir si les outils numériques pouvaient remplacer les questions organisationnelles ou managériales. Je crois qu'elles existent et elles se régleront d'une autre manière. Les outils électroniques, elles permettent, quand ils sont bien utilisés, c'est pour ça qu'en introduction, j'ai vraiment insisté sur le mot savoir-vivre et éducation. Je pense que ça a aussi un rapport avec votre propos. Peuvent apporter un plus sur certains thèmes qui ne seront pas les mêmes selon les cultures et les pays, qui ne seront pas les mêmes selon les entreprises non plus. Et ça appelle aussi à la responsabilisation de chacun, mais le rôle des entreprises, c'est aussi d'aider à bien se servir de ces outils-là. Je ne l'ai pas amené avec moi, là, mais on a développé dans l'entreprise un petit book, là, tout récemment, là, il sort de l'impression, la bonne utilisation des réseaux sociaux qu'on a distribué à l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils comprennent comment fonctionne Facebook, Twitter, etc., etc. Comment il y a des informations qui circulent aussi sur l'entreprise. Comment eux, ils peuvent être sollicités ou parfois sans se rendre compte, donner des informations aussi sur l'entreprise à l'extérieur, avec leurs droits et leurs devoirs et surtout les dangers qu'il peut y avoir à ça. Donc, dans chacune, finalement, des situations qu'on a évoquées, il y a du plus, il y a du moins. Il y a des questions de santé, sans doute. Passer toute sa journée devant un ordinateur, c'est évidemment pas une bonne chose. Mais parfois, dans l'entreprise, on fait plein de choses différentes et on passe rarement la journée devant son ordinateur. Et c'est le soir, c'est chez soi que ça arrive. Donc, qui doit être responsable de donner les bons conseils? Un peu tout le monde, je pense.
Pierre Couvaine.
Oui, je voudrais poser deux questions. Tout d'abord, j'ai écouté avec grand intérêt l'exposé de Christophe Dehé et de M. Stuchlik. Et j'ai essayé de voir ce qu'il y avait de commun dans toutes les méthodes que vous décriviez. Alors, j'ai l'impression qu'il s'agit de quantifier un certain nombre de paramètres de l'activité de chacun, donc de mesurer son poids, de mesurer ce qu'il mange, de compter le nombre de pas que l'on fait, même à l'extrême limite, de quantifier l'humeur que l'on peut avoir à chaque instant. Donc ça, c'est le premier point commun. Et puis ensuite, le deuxième, c'est de surveiller, de contrôler ces paramètres, soit soi-même, soit de déléguer ça à une collectivité, voire même à un arbitre, comme vous disiez. Alors, pour être un peu provocant, tout ça, ça m'a évoqué Foucault, là, surveiller et punir, d'autant plus que vous avez même dit à un moment qu'on pouvait s'auto-punir en décidant de mettre en jeu une somme qui va être versée éventuellement à un parti que l'on déteste. Alors, évidemment, ça peut être une conception du bonheur pour certaines personnes, mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques dangers à ce genre de méthode, de procédé. En tout cas, c'est un bonheur qui peut être très, très dangereux. Voilà, ça c'était ma première question. Et la deuxième est pour M. Henrion. J'étais aussi intéressé par le télétravail. Deux questions très factuelles, mais enfin qui rejoignent quand même un petit peu en partie le sujet précédent. Est-ce que c'est ouvert à toutes les catégories de personnel ou seulement aux cadres? Et puis deuxièmement, est-ce que vous avez mis des méthodes de contrôle? Parce qu'évidemment, quand on travaille chez soi, c'est très bien, mais enfin... D'habitude, on exige, enfin, traditionnellement, on demandait aux travailleurs de venir dans un endroit précis, de pointer pour vérifier qu'il passait le nombre d'heures qu'il fallait. Une fois qu'il est chez lui, est-ce que vous avez mis ça en place sans aucun contrôle, d'aucune manière, ou sinon lesquels?
Alors, la réponse est facile, c'est ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a autant de cadres que de non-cadres qui utilisent ce système-là. J'ai moi-même dans mon équipe deux ou trois télétravailleurs, des assistantes et puis des cadres, et ça se passe très bien pour chacune des catégories. Au fond, le collaborateur, il se régule tout seul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il est chez lui, le vendredi, le lundi ou un autre jour de la semaine, ben, il emmène les dossiers qu'il n'a pas traités pendant la semaine ou qu'il a volontairement mis de côté, et il les fait à ce moment-là, tout en restant accessible au téléphone quand on a besoin de le contacter ou accessible via les outils électroniques. Alors, on n'a pas mis d'instrument de contrôle, on a considéré que c'était aux collaborateurs et aux managers de s'auto-réguler pour que ça fonctionne. En revanche, c'est réversible à n'importe quel moment. C'est-à-dire, si on constate que ça ne marche pas, si un manager constate que ça ne marche pas, il n'a pas à aller à s'en plaindre et à dire « j'ai signé un avenant au contrat de travail et c'est trop tard ». Non, on arrête tout de suite et puis tant pis. Alors, c'est jamais arrivé. Ça fait que 2 ans, hein, ça pourrait tout à fait se présenter à un moment ou à un autre. mais on a essayé de considérer que la responsabilisation de chaque acteur nous permettrait d'engranger un certain succès dans ce domaine-là. Et à ce stade, ça fonctionne.
Alors, en fait, il n'y a pas que ça. On était contraints, hein, 30 minutes, on est obligé d'essayer de faire comprendre. Donc, cette espèce de petite Jiminy Cricket qui nous surveille et qui nous donne des bons conseils, ça peut avoir un certain intérêt. C'est quand même fou. On sait tous ce qu'il faudrait faire pour contrôler son poids, pour être en meilleure santé, qu'il faudrait prendre de l'activité physique, etc. Il y a plein de choses. Appeler ma vieille grand-mère, etc. Bon, on ne le fait pas. Donc comment on fait pour se forcer un peu? C'est Ulysse et les sirènes. Oui, effectivement, il faut se forcer un peu, il faut trouver des moyens, y compris qui peuvent paraître un peu bizarres. Mais si finalement c'est pour un but ultime qui est vraiment celui qu'on désire et qui est honorable, eh bien prendre quelques raccourcis et s'auto-manipuler dans certains cas, pourquoi pas, si à la fin, on atteint vraiment son objectif, bon, c'est peut-être une idée. L'autre élément, je voudrais prendre un exemple de quelque chose qui n'est pas du tout dans cette catégorie-là, et c'est quelqu'un qui est en face de moi qui m'y fait penser, quand j'ai parlé du livre à un ancien client qui dit ah, « c'est quand même étonnant votre histoire de mémorisation, le life logging, là c'est ces gens qui passent leur temps à prendre des photos en permanence de ce qui leur arrive, ça me fait penser à quelque chose, figurez-vous que je me souviens très très bien de ma vie en remontant très très loin en arrière, ma femme non. Et en creusant je me suis dit que c'était sans doute lié à la passion de mon père pour le cinéma. Il faisait des films de tout, etc. Et à partir de là, on avait des séances de cinéma tous les dimanches. Et je me souviens de tout, des cousins, des machins, elle, rien. Et alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai moi-même reproduit la même chose. Mes enfants, c'est pareil, et leurs épouses, non. Donc, effectivement, se remémorer et s'obliger à se remémorer, en l'occurrence, convenez-en, plutôt des instants de bonheur, ben, ça peut avoir des effets tout à fait sympathiques. Et je ne suis pas sûr qu'on soit dans le contrôle à ce moment-là. Mais bon, j'avais pris votre question comme une perche pour rebondir et préciser un peu plus ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire.
Marc Mousseli, prospectiviste, et un peu spécialiste de management. Votre présentation donc, m'amène à un certain nombre de questions. Hein. Alors d'abord, il me semble que souvent, on remplace des choses qui existaient avant les écrans, bien sûr, par les écrans. Hein. En management de production japonais, par exemple, on a les détrompeurs qui jouent un peu ce rôle. Hein. Attention, tu vas faire une bêtise, on t'empêche de la faire. Là, ça va jusqu'à empêcher. En matière de se remémorer, comme vous disiez, là, le cinéma, c'est fantastique, mais il y a aussi le journal. Par exemple, je lisais récemment des tas de choses sur Leonard Woolf, qui était un fonctionnaire colonial à Ceylan, hein, au début des années 1900. Le responsable de district avait l'obligation chaque jour de tenir son journal, qu'il envoyait d'ailleurs à son patron à Colombo. Hein, et sur ce journal, il mettait à la fois ce qu'il faisait et puis des remarques et des rapports. Tout ça, c'est bien sûr remplacé par autre chose. Alors, votre présentation, là, elle part des apps. Et bien sûr, j'étais un peu frustré sur le plan entreprise, parce que vous êtes parti beaucoup d'apps qui sont très personnelles, et ensuite, vous avez un peu manipulé pour les faire rentrer dans l'entreprise. Alors, ma première question, c'est, est-ce que vous avez vu des apps qui étaient construites en partant des problèmes de l'entreprise ? Et non pas en introduisant des questions qui sont des questions, par exemple, de santé, de sport, etc., dans l'entreprise. Et la deuxième chose, qui est exactement la même, mais à l'envers, est-ce que dans une entreprise, pour présenter ça, il ne vaut pas mieux lier un certain nombre d'apps à un certain nombre d'activités, plutôt que, comme vous avez été un peu contraint de le faire, présenter les apps les unes après les autres, vous voyez ?
Alors, vous avez parfaitement raison. On n'a jamais voulu dire que c'était tout à fait une innovation sur tout. On sait bien que, par exemple, pour maigrir, un certain nombre de spécialistes nous ont recommandé de tout noter ce qu'on mangeait avec un papier et un crayon. Bon. C'est vrai aussi avec le mental. Enfin, mais qu'est-ce que c'est fastidieux ? Généralement, au bout de 10 jours, 1 mois, 3 mois, allez hop, on arrête. Mais ça marche. Donc effectivement, c'est pas beaucoup, beaucoup mieux que le papier et le crayon. Dans certains cas, un peu. Mais surtout, c'est plus facile, c'est plus commode, on l'a sur soi. Et donc, c'est ça qui démultiplie un certain nombre d'effets que l'on a présentés et qui, effectivement, si on a trouvé des documents scientifiques sur la question pour expliquer pourquoi ça marchait, c'est parce que, dans certains cas, c'était documenté depuis très, très longtemps et que c'est un consensus parce qu'effectivement, on avait la méthode du papier et crayon qu'on a, en fait, informatisée d'un certain point de vue. Sur la question où on a tordu un peu pour les questions d'entreprise, alors là, je vais être un petit peu provocateur à mon tour. sur toutes ces questions-là, nous avons une intime conviction, en tout cas moi j'en ai une, mais je pense que Jean-Baptiste la partage. On n'attend plus que les entreprises envoient un cahier des charges à une société quelconque pour lui dire « voilà le problème que j'ai, il faut me le résoudre ». Dans le numérique, c'est plus du tout comme ça que ça marche. Il y a tout un tas de gens qui se mettent en tête, qui vont résoudre tout un tas de trucs. Des fois, c'est assez délirant. Ça ne produit pas grand-chose. Et puis des fois, ça produit des trucs que personne n'avait vu. On est retombé il n'y a pas très longtemps sur une cassette, parce que c'était une cassette à l'époque, une interview de Steve Jobs qui expliquait l'iPad en 1983. Il expliquait ça comme la stratégie d'Apple. Bon, je vous rappelle que dans les années 90, Apple a failli mourir. Donc c'est des gens qui ne s'occupent absolument pas de savoir s'ils vont recevoir un cahier des charges d'une entreprise. Et pour être très clair, les entreprises passent leur temps aujourd'hui à courir après ce que les clients veulent, leurs clients, et ce que leurs collaborateurs veulent, parce qu'elles veulent les meilleurs. Et en grande partie, c'est la consumérisation de l'informatique. Ça porte même un nom, hein, c'est ça. Et effectivement, on ne décide pas vraiment. On décide de suivre le mouvement parce qu'on n'a pas trop le choix ou parce qu'on trouve qu'il y a des opportunités. Et donc, c'est plutôt comme ça que ça a l'air de fonctionner maintenant. On peut être d'accord, pas d'accord. À la limite, peu importe. Quand on analyse un petit peu le phénomène, c'est 90 ou 15% des décisions qui se prennent comme ça. Donc, on n'a pas vu d'entreprise demander précisément par rapport à une activité, un besoin, où ça serait fait avec des technologies plus anciennes, ça existait. Là, ce qu'on a présenté, c'est une technologie plus récente quand même, qui part justement d'un autre principe.
Michel Roger.
Oui, j'ai essayé de rassembler l'ensemble des débats dans une double réflexion. Bon, j'adhère au mouvement tel qu'il est théorisé et valorisé ce soir. Mais vous allez comprendre pourquoi je considère qu'il a autant de chances d'échouer que de réussir. Je dispose d'une particularité, je fais travailler des gens depuis 70 ans. C'est un peu long, mais c'est comme ça. En deux périodes de 35 ans, 1944-1980, qui est la période qualitative du travail, et puis 80 jusqu'à nos jours, qui est une période quantitative, avec l'introduction de l'informatique, de la statistique généralisée, de toutes les études de rendement. Et c'est en ça que je dis que le mouvement a autant de chances d'échouer que de réussir, parce qu'il est pour partie orienté sur des objectifs et des techniques qualitatives, et pour une grande partie, vous l'avez répété à N reprises, sur des objectifs et des techniques purement quantitative. Or, et vous allez comprendre pourquoi je fais cette réflexion, c'est parce que j'ai vu à quel point les techniques quantitatives installées depuis à peu près 35 ans nous ont fait passer d'un système de qualité de santé au travail à un système de mauvaise santé au travail. Au début, j'ai commencé à travailler avec des chevaux. Et je vous assure, j'ai conservé une observation réelle, c'est que les chevaux qui travaillent ont une organisation de leur santé qui est naturelle et que j'ai retrouvée chez les hommes que j'ai fait travailler au début, 2-3 ans après, des prisonniers allemands. Le simple fait de passer au travail leur donnait tous les éléments de la santé et autant ils savaient la réguler comme les animaux quand ils étaient au travail, autant ils en perdaient la régulation quand ils restaient dans leur camp. Puis j'ai vu arriver les déruralisés français, quand ils sont partis s'installer dans les villes au moment du développement économique, ils étaient paumés, ils avaient tous les risques de voir leur santé dégradée au travail dans les conditions où ils vivaient, pas du tout, parce qu'il y avait une recherche de qualité qui leur garantissait l'espoir d'avoir demain pour leurs enfants des modes de vie, un bonheur, ils ne parlaient pas du bonheur 2-0, mais un bonheur meilleur. Or, tout ça, ça s'est progressivement détruit depuis le début des années 80. Donc, soyez extrêmement vigilants parce que les phénomènes de mode sont là. La semaine dernière, j'étais dans une commune de l'Ouest parisien où le conseil municipal s'est mis en tête de créer un collectif de la qualité de la vie au travail. Je ne vous dis pas le sentiment de mode que l'opération m'a inspiré. Bon, je n'avais pas le temps d'expliquer ce que je viens de vous expliquer, j'arrête là, mais de grâce, enfin, Christophe, il faut qu'on se revoie. Je suis là parce que je souhaitais qu'on se parle. Mais de grâce, essayez de réfléchir à l'excès de quantitatif dans la définition et la pratique du mouvement qui a une réelle utilité.
30 secondes pour la précision. Vous avez bien tous compris que nous n'étions pas les promoteurs de ce mouvement. Nous ne sommes financés par aucun de ces méchants Google et etc. Nous sommes juste des observateurs qui ont été particulièrement surpris. On a juste un rôle d'alerte ce soir. Il se passe quelque chose. Alors, d'inquiétant, on peut être d'accord, pas d'accord. Vraiment quand même beaucoup travaillé sur ces questions-là. Donc il y a des arguments où on a l'impression qu'on peut dire des choses dessus parce que voilà, il y a un déséquilibre de documentation. Il y en a d'autres. On est devant l'inconnu, effectivement. J'aurais quelques réserves pour vous suivre complètement sur la dégradation de la qualité du travail qui est réel à un point qui est difficile à nommer. Exclusivement par l'aspect quantitatif des choses, il y a d'autres phénomènes qui me semblent aussi être convergents en même temps depuis ces décennies. Enfin bon, c'est un autre... Mais globalement, oui.
Si dégradé que ça, je ne continuerai pas à travailler 70 ans après. Mais c'est simplement pour alerter. Le quantitatif est très présent dans votre démarche. Je ne me suis pas adressé à M. Henrion parce que j'ai eu l'impression que lui, il était plus orienté sur le qualitatif que le quantitatif.
En tout cas... Les quatre exemples que j'ai voulu mettre en avant sont exclusivement qualitatifs.
Le dernier, qui me va très très bien, le smart metering, qui effectivement offre une possibilité de connaître sa consommation précise, a effectivement un effet. C'est une technologie du comportement. On va avoir des comportements qui vont s'adapter en fonction d'une information beaucoup plus précise. Et donc de ce point de vue-là, on est quand même aussi pas mal dans le quantitatif. Mais on a été rapide. Il y a plein de choses dans ce qu'on a vu qui ne sont pas exclusivement quantitatives.
Je reviens sur ce que je vous avais dit au départ, qui était de, premièrement, le constat d'une prolifération incroyable d'applications nouvelles ou de techniques et l'imagination stupéfiante de tous les promoteurs de ça. Il y a vraiment de l'imagination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quoi en penser ? Par moment, on se dit, mais c'est dingue. C'est de l'auto-manipulation, c'est de l'auto-punition. Comment peut-on valoriser, être heureux de voir des hommes qui se photographient leur assiette pour l'envoyer à leurs amis et puis qui s'infantilisent d'une certaine manière. Alors, moi, ce que je propose, c'est de suspendre un temps le jugement parce qu'on dit, quoi qu'on en pense, qu'on pense que les écrans, c'est mauvais ou pas, le phénomène se développe de manière tout à fait étonnante. Alors, il y a peut-être quelque chose d'assez profond qui se joue qui n'est pas facile de caractériser. Alors j'avancerai peut-être une esquisse d'hypothèse. On a fait une séance il y a quelque temps à l'école de Paris sur l'influence des rites sur le fonctionnement du cerveau, qui était qu'au fond, l'homme vit dans des activités assez ritualisées dont il n'a pas forcément compte. Et l'avantage des rites, disait Lionel Nakash, c'est que les rites soulagent le cerveau, enclenchent un certain nombre d'apprentissages. Et je me demande si un des effets des dispositifs qu'on voit, ce ne serait pas de déplacer un tout petit peu les rites dans lesquels on vit, de rendre conscience certaines choses qui sont devenues complètement inconscientes, et puis progressivement de faire que la régulation automatique, finalement plus ou moins automatique dans laquelle on vit, est un tout petit peu déplacée par ces nouveaux outils. C'est juste une hypothèse de travail. Voilà, madame, je vous ai fait attendre longtemps, donc je vous passe la parole.
Oui, bonsoir, je suis Fabienne Couton, j'ai créé une société qui s'appelle Les Mains Libres, et nous avons conçu un logiciel qu'on appelle le Déclic Zen et qui propose, suite à une alerte, 2 minutes de relaxation directement sur l'écran. Donc je voulais, à titre d'exemple, montrer que l'inventivité, la créativité des entreprises françaises est déjà sur ce poste-là. Donc c'est une innovation. Et pour la petite histoire, nous avons beaucoup de difficultés à la faire rentrer dans les entreprises parce qu'aujourd'hui, les DRH me disent « je ne vais quand même pas payer pour que mes salariés se relaxent toutes les 2 minutes, toutes les 2 heures, c'est-à-dire 8 minutes par jour », sachant qu'on sait très bien que les gens se détendent, trouvent des solutions pour ne pas travailler de toute façon quand ils en ont besoin. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, c'est avec plaisir que je vous présenterai cette innovation.
Monsieur derrière.
Oui, bonjour, Bernard Saint-Langros. Je suis médecin du travail et responsable syndical à la CGC. Et je suis venu ici avec
beaucoup... Le d'une séance sur, la santé au travail.
Je suis beaucoup intéressé parce que demain, on négocie avec le MEDEF sur la qualité de vie au travail. Il faut dire l'intérêt. Je voudrais d'abord faire deux remarques en tant que professionnel de la santé au travail. Au niveau de l'écran, c'est vrai que depuis longtemps, on a réglé le problème des rayonnements, de tout ce qu'on pouvait craindre à ce sujet-là. Par contre, au niveau fatigue visuelle, au niveau croissance du taux de myopie chez les enfants, c'est indiscutable. Par ailleurs, le fait de ne plus devoir ronger le dossier qu'on a traité, c'est-à-dire de se lever, de le remettre dans l'armoire, ce qui fait une pause dans le cerveau, l'air de rien de 5 minutes, mais dans un clic de passer sur un autre dossier, crée une intensification neurologique qui se traduit au niveau de la formation réticulaire activatrice de façon indiscutable, ce qui crée de la fatigue. Ce n'est pas psychiatrique, c'est neurologique. C'est des choses qui existent indiscutablement et qui se mesurent. Par contre, ces outils, c'est un peu comme la langue d'Ésope. On en fait le bon comme le mauvais et on le voit avec le télétravail qui enchante la plupart des gens. Et d'ailleurs, je rassure l'interlocuteur qui en parlait, la plupart des études qui ont mesuré le travail fait dans le cadre du télétravail montrent qu'on travaille plus en télétravail qu'au bureau. Par contre, il y a d'autres phénomènes comme la géolocalisation qui créent des climats délétères dans des entreprises qui auparavant marchaient bien, avaient une bonne ambiance et qui se voient avec l'œil de Caïn qui les suit continuellement, ce qui crée des difficultés considérables. J'étais venu avec l'espoir d'entendre des réflexions, des propositions sur le travail collectif avec ces appareils. Un peu les méthodes wiki, les logiciels ERP, etc. Quand on voit tout ce que font les ados avec Facebook, ou qui travaillent de façon... Enfin, ce n'est pas du travail, c'est des échanges collectifs où ça rebondit de l'un à l'autre. J'espérais avoir une approche, une ébauche ou une écoute à ce niveau-là. Alors j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet-là, parce que indiscutablement, l'ordinateur et le numérique s'insinuent dans le travail cognitif de plus en plus, et on n'a plus maintenant, personne ne peut travailler sans ordinateur. Avant, tous les outils intellectuels étaient dans le cerveau des personnes. Quand on sortait de l'école de commerce ou d'ingénieur ou de médecine, on avait tout dans la tête. Maintenant, plus rien ne peut se faire sans... C'est au point que certains parlent d'industrialisation du travail tertiaire, puisque ces outils imposent un rythme, imposent une procédure, imposent une façon. Et c'est un peu sur ces sujets-là que j'aimerais bien vous entendre.
Donc je suis parfaitement convaincu sur l'intérêt du travail collaboratif. Il y a un déficit de réflexion sur ces outils qui est abyssal. Déficit de réflexion sur les concepteurs de ces outils. Déficit encore plus considérable par les utilisateurs organisés que sont les entreprises. Donc c'est exclusivement cosmétique dans la plupart des cas. Je vais continuer de vous décevoir. Vous avez bien compris, vous seriez déçus. Nous n'avons pas des choses extrêmement incroyables à montrer à cet égard. Sauf quand même sur certains petits aspects, mais qui ne sont pas vraiment dans l'entreprise. On l'a évoqué tout à l'heure, tous les réseaux de soutien, par exemple dans les universités américaines, on a dit un étudiant sur deux va vivre une période dépressive. Bon, ils ont organisé, il n'y a pas une grande université américaine qui n'a pas organisé un réseau entre pairs pour essayer d'identifier, y compris sur Facebook, quelqu'un qui va mal. Et ce n'est pas les parents, même s'ils sont amis. Il y a quelques-uns qui arrivent à être amis. De toute façon, il y a un langage entre les jeunes qui fait que les parents n'ont aucune chance, ou pratiquement aucune chance, de voir, même quand les enfants vont mal. Donc c'est vraiment entre pairs que ça peut se fonctionner. C'est quand même assez incroyable de voir que toutes les grandes universités américaines ont développé ce genre de réseau. C'est à peu près vrai aussi chez nos amis scandinaves. À ma connaissance, ce n'est pas du tout à l'agenda en France. Pourquoi ? Donc là, en termes d'organisation, il y aurait des choses à faire. Mais très probablement, l'entreprise est le dernier endroit, parce que ça, c'est vraiment une question de gêne, est à l'antithèse d'un type de management rationnel qui avait tout fait pour éradiquer tout ce qui ressemblait à de l'auto-organisation dans l'entreprise.
On avait fait cette séance sur le web 2.0 avec Christophe Dehay. On avait invité un patron d'entreprise, l'entreprise Lipi, qu'on avait trouvé une entreprise très singulière qui essayait d'utiliser le plus de possibilités possibles offertes par les réseaux sociaux, le web, etc. Et je me rappelle, l'orateur avait présenté son entreprise et dans la salle, il y avait des gens qui étaient estomaqués ou des gens d'entreprise qui se disaient, on voyait dans leur tête, il est fou. il est, parce que ça remet en cause à peu près tous les fonctionnements d'entreprise, la hiérarchie, les frontières, l'organisation, la manière de rendre des comptes, ça, ça modifiait tout. Cette entreprise manifestement devenait performante, mais avec un tel bouleversement des modes usuels de l'entreprise qu'on se disait que les entreprises, surtout les grandes, mais même les petites, auraient pas mal de chemin à faire avant d'utiliser vraiment les réseaux sociaux avec autant de facilité que les ados.
Juste permettre d'ajouter un commentaire là-dessus. Dans mon entreprise, l'activité s'y prête pas bien. Les réseaux collaboratifs, ça décolle pas. Je vais être un peu dans le même sens. Et pourtant, on a facilité la possibilité de le faire. On peut créer son réseau, sa communauté. Il y a tous les outils qui vont bien. Le seul réseau qui marche très très bien, c'est celui qui tourne autour du développement durable. Et donc, en fait, il va vers des valeurs qui sont un peu finalement périphériques à l'activité de l'entreprise. Mais alors, il y a un nombre considérable de gens qui y ont adhéré et ils circulent en permanence. Des informations, du dialogue, des articles que les gens se passent les uns les autres, etc. Donc là, on n'a pas besoin de réguler parce qu'on n'est pas dans l'activité au quotidien. Il n'y a pas de problème de management parce que finalement, ça fait que d'apporter des idées. Hein. Ça sert à ça et c'est vraiment très efficace. Alors en revanche, moi, je voulais citer un autre exemple. J'ai eu l'occasion il y a 2 ans aux États-Unis de visiter une entreprise qui s'appelle CSR, qui est une entreprise d'informatique beaucoup moins connue que Microsoft et autres, mais qui doit être 2e ou 3e là-bas. Et qui utilise les réseaux sociaux pour accompagner son développement international. Donc, ils rachètent des entreprises un peu partout dans le monde en manière permanente. Et dès qu'ils arrivent, ils installent le réseau collaboratif. Et moi, j'avoue, alors je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils nous ont raconté, parce qu'on n'y est resté que quelques jours, mais ça paraît assez bluffant. C'est-à-dire qu'au-delà de l'intégration culturelle, le fait d'installer tout de suite un réseau social et de permettre à des informaticiens de tout pays, alors qui manipulent la langue anglaise, parce qu'il y a toujours la question de la langue, hein, mais qui se communiquent immédiatement la manière de fonctionner, la façon dont les outils fonctionnent, les logiciels, que sais-je, très très vite, avec bien sûr un système de régulation qui est quand même assez fort. Hein, ça, je l'avais bien remarqué. C'est en tout cas une pièce dans l'outil d'intégration culturelle d'entreprise en cas d'acquisition qui ne me paraît pas négligeable et assez intéressant. Mais il y a un vrai motif. Et encore une fois, dans le développement durable chez nous aussi, il y a un motif qui fait que ça marche. Et qui est un peu différent du fonctionnement managérial traditionnel, comme le disait Christophe, qui aujourd'hui est, en tout cas en France, assez peu compatible avec les réseaux collaboratifs.
Ça marche et c'est un peu à la marge. Donc c'est pour ça que c'est plus facile. Parce que quand on bouscule le cœur du fonctionnement de l'entreprise, c'est plus difficile. Non, mais il y a une question sur la géolocalisation. Est-ce que vous avez regardé? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a les éléments techniques qui permettent aux parents de savoir à chaque instant où sont leurs enfants, aux conjoints de savoir où est l'autre, aux patrons de savoir où sont les ouvriers. On peut savoir tout, enfin la localisation de toute personne, sans même qu'ils s'en rendent compte. Donc c'est pratiquement Orwell. Est-ce que vous avez regardé ça?
Alors, nos amis américains qui n'ont pas la CNIL? Quelle chance ils ont, ils sont très créatifs du coup. Effectivement, vous avez des services pour parents pour pouvoir pister. Vous définissez la zone à peu près à 200 mètres du lycée, des tranches horaires, et puis vous avez un SMS si ça quitte cette zone en question. C'est vraiment des Américains. Nos mots, Manu, c'est évident qu'ils se passeront le mobile en question.
Donc, parce que les Américains ne le font pas.
Non, mais enfin, bon, je plaisante évidemment. Bon, ces services-là se sont lancés, il n'est quand même pas complètement certain que ça soit développé, mais je vous rappelle quand même que l'explication du développement de la téléphonie mobile partout dans le monde, c'est quand même essentiellement, enfin pas essentiellement, j'exagère un peu, mais enfin, une énorme partie, l'angoisse des parents qui était de pouvoir, si ce n'est surveiller, joindre leur progéniture à tout moment. Donc on est toujours dans ce rapport-là. Et quand on parle de mes usages, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ?